Québec se lève. La chronique historique de François Terrien. Voici le studieux Sieur de Terrien.
Oh, que oui, le Sieur de Terrien de tout son prestige est avec nous. Salut, François.
Salut. J'aime ça, je suis prestigieux.
Là, en plus, François, il est arrivé un événement historique majeur cette semaine. J'ai tout de suite pensé à toi. Évidemment, bon, vous en avez entendu quand même parler pas mal cette semaine, mais puisqu'on est la chronique historique la plus prestigieuse au monde, on ne peut pas passer à côté. En une minute à peine, là, l'histoire du fameux arbre au boulet qui sera donc coupé. Là, il va être coupé. Il menace de tomber l'arbre au boulet sur le chemin, pas le chemin, mais sur la rue Saint-Louis.
Ouais.
Mais on dit un boulet, mais c'est une bombe.
Oui, c'est une bombe incendiaire. Hein? D'ailleurs, logiquement, elle n'est plus active. Là.
On espère, en tout cas.
Oui, c'est ça, mais on prendra pas de chance parce que c'est mardi qu'on va commencer la séance d'abattage. Ça va se dérouler sur une couple de jours, justement parce qu'il faut faire attention pour être sûr que le boulet ou la bombe ne nous explose pas d'en face.
Okay. Il y a un coup qui resterait de la pourde.
Ben c'est ça. C'est une bombe incendiaire, dit-on, comme celle que les Anglais envoyaient sur Québec lors du siège de 1759. Est-ce que c'est un boulet qui date de cette époque-là? Ça se peut. Mmh. En tout cas, il y a eu toutes sortes de rumeurs concernant cet arbre-là parce que c'est vraiment particulier. Là. Il est vraiment fiché dans la base du tronc.
Ouais.
Puis on se disait, c'est probablement l'arbre qui l'a sorti de terre. Il était enfoui dans la terre, puis l'arbre l'a sorti de terre. Sauf qu'il y a une quinzaine d'années, ce mythe-là a explosé, c'est
oui.
Le cas de le dire, parce qu'il y a une photo datant du début des années 1900 qui montrait le coin de la maison, parce que cet arbre-là, il est sur la rue Saint-Louis, au coin de la rue Corps-de-Garde. Si vous descendez la rue Saint-Louis, vous passez la porte Saint-Louis, il y a la rue Saint-Ursule, et après ça, à votre droite, du même côté que le château Frontenac, dans le fond, mais bien avant, il y a la rue Corps-de-Garde, il est là, l'orme. Il est tout seul, puis il trône ouais. là depuis une centaine d'années. Puis il y a une photo de cette maison-là qu'on voit, et on voit le boulet, et l'arbre, il n'est pas là. Alors, si quelqu'un a sorti de terre quelqu'un, c'est le boulet qui a sorti l'arbre de terre. Alors, le boulet est là, mais il n'y a pas d'arbre. Ce qui a fait dire aux gens qui connaissent ça, c'est que ce boulet-là a été mis à cet endroit-là exprès pour servir de chasse-roue. Un chasse-roue, c'était dans le fond, c'était un obstacle pour empêcher les charrettes de tourner le coin
trop serré
puis d'accrocher la maison, dans le fond. Alors, ce qu'on faisait, c'est qu'on...
si tu prends la curve un peu trop serré, boum! T'exploses l'incendie.
C'est ça. C'est pas plus compliqué que ça.
Trompe-toi pas.
En fait, ce que les gens faisaient, c'est qu'ils soudaient une espèce de piquet sur le boulet ou la bombe, puis ils fichaient ça dans la terre pour pas que personne soit déplace le boulet ou parte avec. Puis là, ben, il était là. Alors, la charrette qui voulait tourner le coin, ben, il fallait qu'elle évite ce qu'on appelait le chasse-roue.
Donc, puis l'arbre a poussé.
Puis l'arbre, ben, il y a une graine qui est arrivée proche du boulet, puis il a aimé le coin, alors il a poussé. Alors, logiquement, la photo a été prise en 1908, et savez-vous par qui? Par quelqu'un, on
le
a parlé.
Charles Bayard, j'ai lu cette semaine.
Non.
Monsieur Carrel.
Et voilà, Franck Carrel.
Franck Carrel, bien plus qu'une
voie de dessert.
Oui, c'est ça.
C'est que Franck Carrel, à cette époque-là, en plus d'être propriétaire du Daily Telegraph, il publiait une revue touristique, un magazine touristique, puis il rééditait ça d'année en année, puis il a pris une photo, là, pour parler là, des maisons et de la particularité du... on l'appelait pas ça le Vieux-Québec à l'époque, mais de Québec. Alors, c'est lui qui a pris cette photo-là de la maison. On voit le boulet. L'arbre n'est pas là. Alors, fin du mythe, le boulet était là avant l'arbre.
Franck Carrel, l'enquêteur du boulet.
Ouais, ouais. Et donc, on va couper l'arbre mardi et on va garder la souche, je pense. En tout cas, on va faire
on veut mouler la souche, puis on va garder le boulet. Alors, bref, l'arbre sera perpétué par une œuvre d'art.
Bon, parlant de Franck Carrel, bien plus qu'une voix de dessert, c'est le retour de la chronique.
Oui.
Bien plus que, et on commence avec Raoul Jobin, bien plus qu'une rue et une salle de spectacle.
Oui.
Il est une troisième affaire, ce gars-là.
Oui, c'est ça. Il est lui-même, accessoirement. C'est un ténor québécois, Raoul Jobin, qui est né dans le quartier Saint-Sauveur en 1906. Il décède à Québec en 1974, donc il a vécu 67 ans.
La rue Raoul Jobin qui est dans le quartier Saint-Sauveur.
Ben, et voilà, l'ancienne rue Sainte-Thérèse. Lui, M. Jobin, il a connu une grande carrière en Europe avant la Deuxième Guerre mondiale, où il joue dans de nombreux opéras. Mais évidemment, là, la guerre met fin à sa carrière européenne. Puis par la suite, il va la poursuivre, cette carrière-là, mais dans les Amériques, en Amérique du Sud notamment. Il était très populaire en Argentine. C'est un gars qui a chanté beaucoup, qui a joué beaucoup d'opéra en Argentine, puis il était très, très populaire. Les Argentins l'aimaient beaucoup. Dans les années 40, il obtient régulièrement des rôles avec les plus grandes vedettes de l'époque. Il est d'ailleurs considéré comme le plus grand ténor français dans ces années-là, même si c'était pas un français, là. C'est qu'il y avait un style qu'on appelait le style français, puis lui, il maîtrisait parfaitement, dit-on. Il s'est spécialisé dans l'enseignement à partir des années 50 et a aussi été délégué culturel du Québec à Paris vers la fin de sa vie, là, dans les années 60. Et comme il est né dans le quartier Saint-Sauveur, c'est pourquoi on a renommé la rue Sainte-Thérèse, située dans ce quartier, en son honneur au tournant des années 2000. Mais quand il y a eu
Après les fusions,
c'est ça. Là.
Parce qu'il y avait un doublon à Beauport, je pense.
C'est ça. Alors, on a décidé de garder la rue Sainte-Thérèse à Beauport, puis à Québec, on s'est dit, ben, et M. Jobin, ça serait bien de l'honorer. Déjà, il était honoré par le Palais Montcalm depuis 1989, qui appelle sa salle de spectacle la salle Raoul Jobin.
Oui.
Alors, donc, M. Jobin est doublement honoré avec une rue et une salle de spectacle.
On poursuit avec Ignace Bourget, qui a priori me disait rien, mais quand on l'utilise son deuxième prénom, Monseigneur, là, tout d'un coup...
Ah, c'est un prénom, ça, Monseigneur,
oui,
c'est pas
oui,
un titre.
Non, c'était sa mère, Madame...
Madame Monseigneur.
Madame Bourgette, là. elle avait appelé Ignace Monseigneur. Bien plus qu'une route et une sortie d'autoroute aussi.
Et voilà, parce que la route Monseigneur Bourget, située à Lévis, rend hommage au deuxième évêque de Montréal.
De Montréal,
Ignace Bourget. Cette route est relativement connue grâce à la sortie qui porte son nom sur l'autoroute 20.
C'est ma sortie, ça. C'est ça.
Quand on s'en va vers l'est, on croise la sortie Monseigneur Bourget. Il est né en 1799 à Lauzon, ce qui explique le nom de la route et de la sortie à cet endroit-là. C'est l'endroit de sa naissance. C'est dans le secteur Lauzon de Lévis. Il est mort en 1885, donc il avait 86 ans. Le diocèse de Montréal est fondé sur le tard en 1836. À l'époque, là, jusqu'en 1836, tout le Bas-Canada, c'est le diocèse de Québec. C'est l'évêque de Québec qui règne sur tout le Québec, dans le fond, là. Il y a un diocèse. Et Monseigneur Bourget est déjà secrétaire du nouvel évêque de Montréal en 1836 et il va lui succéder à sa mort en 1840. Puis c'est une époque trouble parce qu'on est quelques années après la rébellion de 1837-38. Puis les élites de l'époque, il y en a beaucoup qui se sont exilés. Et le clergé, dans le fond, à ce moment-là, se donne la mission de recoller les morceaux et garder la cohésion des Canadiens français. Puis lui, en plus, il est dans un nouveau diocèse, alors de l'ouvrage, il n'en manque pas. Et puis dans ce temps-là, il ne faut pas oublier que l'éducation, les soins de santé, c'est sous la responsabilité des religieux. Alors lui, il y a un grand diocèse. Le diocèse de Montréal, à ce moment-là, il s'en va jusqu'à l'ouest, dans l'ouest canadien. Alors c'est l'Ontario puis quelques provinces de l'ouest qui n'existent pas encore à ce moment-là. Mais quand même, c'est méga grand. Alors lui, il faut que tous... Il gère ça. Alors, il y avait beaucoup de travail. Pour faire tout ce qu'il y avait à faire, ben, il fait venir des prêtres ou des congrégations religieuses sur son territoire. Il doit coordonner tout ça, puis veiller en plus à la colonisation du nouveau diocèse. À cet effet, il est responsable de la nomination d'un personnage mythique de la télévision québécoise. De qui parle-t-on? Les pays d'en haut.
Je l'ai vu, je peux pas te... Antoine Bertrand.
Le curé Labelle.
Le curé Antoine Labelle, c'est lui qui l'a nommé en poste dans les pays d'en haut pour la colonisation des...
C'est Monseigneur Bourget qui a nommé Antoine Bertrand dans les pays d'en haut avec Séraphin.
C'est ça. Il a dit, c'est toi qui vas avoir ça.
Il a dit, Antoine Labelle, tu vas être célèbre, toi, va-t'en là, tu vas voir, ils vont parler de toi dans au-dessus d'une centaine d'années, 200 ans, tu vas voir, ça va bien aller.
Oui.
En fait, ce personnage-là, Antoine Labelle, qui était un curé, devait s'exiler aux États-Unis. Puis Ignace Bourget voyait que c'était un homme là, qui avait...
du potentiel.
Qui emmenait large, puis qui avait de l'énergie.
Curé Antoine Labelle, qui est aussi bien plus qu'un
cégep.
Oui.
Il est bien plus que pas mal d'affaires,
oui.
Antoine Labelle.
Oui, son nom est un petit peu partout, Antoine Labelle. Alors, c'est lui, Monseigneur Bourget, qui l'a nommé à cet endroit-là. Ignace Bourget va démissionner de son poste d'évêque de Montréal en 1876. C'est dans la foulée de l'histoire de l'université. Je vous avais parlé de l'université de Laval, qui avait une succursale à Montréal.
Oui.
Puis, Monseigneur Bourget, lui, il voulait que l'Université de Montréal soit indépendante, ce qu'avait refusé le pape à l'époque, parce que ça passait par Rome. Alors lui, en guise de protestation, puis aussi, là, je pense qu'il était un petit peu fatigué. Là. En 1876, il a 77 ans. Alors, il a démissionné, donc, 9 ans avant sa mort.
Ça veut dire ça, il a fait une retraite de 9 ans. C'est pas si long que ça, quand même.
Non.
Joseph Sanson, bien plus vaise, bien plus qu'un...
Qu'un tunnel.
Oui!
Ben, bien plus qu'un pont, bien plus qu'un tunnel, bien plus qu'un barrage, parce que tout ce qui se passe, qui passe au-dessus de la Saint-Charles, à cet endroit-là, porte le nom de Joseph Sanson.
Et bien plus que l'ancêtre d'Alexis aussi, je présume.
C'est une bonne question. Sanson, François nous le dira.
Ben, j'ai pas fouillé son arbre généalogique à ce point-là. Joseph Octave Sanson a d'abord donné son nom au premier pont Sanson au tournant des années 20 et 30, et ensuite au pont-tunnel Sanson, construit en 1984 et 85. Son nom a aussi été donné au barrage érigé au pied du pont à la fin des années 60, c'est 1969. Joseph Sanson est né à Saint-Isidore-en-Beauce en 1862. Il meurt à Québec en 1945 à l'âge de 83 ans. Il a été maire de Québec, M. Sanson, de 1920 à 1926. Puis avant sa carrière politique, c'est un homme d'affaires qui touche à plusieurs domaines, la quincaillerie, les pâtes et papiers, la pêche notamment. Il a œuvré dans plusieurs secteurs. C'est sous son administration que l'on décidera de construire un pont routier qui enjambe la rivière Saint-Charles près de l'usine de pâtes et papiers Anglo-Pulp, qui est construit à peu près au même moment. Là. C'est 1927 qu'on l'a inauguré, puis le pont est construit dans ces années-là.
C'est-tu celui-là, c'est-tu le pont qui donne... ou la pointe aux lièvres, je ne suis pas sûr de
les Capucins. Les Capucins. Dans le fond, c'est okay. quand tu passes par le palais de justice, il y a Jean Lesage.
C'est
passe
ça,
sur
okay.
Le pont.
Hey, j'étais pas à bonne place, pas en tout. Ben oui, je vois, c'est.
Sinon,
oui,
là, à, la bon, sortie c'est bon. De, à la sortie de Saint-André, juste avant de s'engager vers le boulevard Charest, là, à votre droite, il y a la sortie du tunnel.
Oui, oui, c'est
vous
ça.
Prenez le tunnel, puis ça mène à des Capucins ou l'autoroute là, du Frémont-Morency.
C'est
si
ça.
Vous voulez,
OK, je suis à bonne place.
C'est à cet endroit-là. Là. C'est un des premiers ponts sur la Saint-Charles. Puis comme il y avait encore de la navigation commerciale à l'époque du pont sur la rivière Saint-Charles. Alors, cet ouvrage-là, autant le pont routier que le pont ferroviaire, pouvait se lever pour laisser passer les bateaux. Mais à la fin des années 60, ça a été la fin, quand on a construit le barrage. Alors, c'est pour ça que le nouveau pont Sanson qui a été construit par la suite, lui, il est fixe, là, il a pas besoin de se lever. Puis, le tunnel par la suite, là, pour désengorger le secteur, parce que c'était joliment bouché, là. C'était le seul pont près du centre-ville qui franchissait la Saint-Charles. Alors, il y avait de la circulation pas mal sous ce pont-là. Puis, à un moment donné, dans les années 80, on a décidé de construire le tunnel. Joseph Sanson, après son passage à la mairie de Québec, va poursuivre sa carrière politique au sein du gouvernement provincial. Il sera député libéral de Québec-Centre de 1927 à 1935. Ce comté a été scindé en deux en 1966. Il est devenu Taschereau et Jean Talon.
Ah oui, c'est ça. Ah
alors,
oui.
C'est l'ancien Québec-Centre.
Là, je suis obligé de dire la prochaine, hein? Je la connais pas, mais vous allez comprendre pareil. Évelyne Dumas, Vez, bien plus que...
Et je me sens que j'ai déjà entendu ce nom-là.
C'est pas une salle?
C'est Évelyne Dumas, bien plus que la salle de conférence du premier ministre.
Bon, c'est... Non, mais je suis déjà allé là.
C'est niché, ça, mon sieur de Terrien. Bon. C'est très niché.
En fait, j'ai fait ça parce que, évidemment, le ministre Legault, on le voit souvent depuis un an.
Oui.
Puis à chaque fois qu'il fait sa petite conférence, avec soit seul, soit avec le ministre Dubé, et ou avec M. Arruda, il est dans la salle Évelyne Dumas. Alors, c'est qui cette madame-là? Ben, elle est originaire de Charlevoix. Elle est née en 1941, décédée en 2012. C'était une journaliste et une auteure. Et elle fut la première femme courriériste parlementaire à l'Assemblée nationale en 1962 pour le compte du devoir. C'était la première courriériste parlementaire de sexe féminin, Mme Dumas. Alors, c'est pour ça qu'on a nommé la salle où le premier ministre fait ses conférences de presse, la salle Évelyne Dumas. Elle a été collaboratrice à Cité Libre, la fameuse revue fondée par Pierre-Éliott Trudeau, entre autres. Évelyne Dumas y était dès le début de cette revue qui s'opposait au clergé et au gouvernement Duplessis. Historienne de formation, elle a écrit des ouvrages d'importance sur le début du mouvement syndical au Québec, notamment sur les premières grèves dans les années 40, dans les années 30 et 40. Ça s'appelait « Dans le sommeil de nos os », quelques grèves au Québec de 1934 à 1944. Elle a aussi fait quelques essais, de même qu'un roman, sur la crise d'octobre. Au tournant des années 2000, elle s'implique auprès du Fonds commun des personnes assistées sociales du Québec. Elle rédigera l'historique du mouvement en 2002. Ça s'appelait « Ensemble, se donner une voix pour mieux être ». Elle a été une proche collaboratrice de René Lévesque lorsqu'il était premier ministre, parce que c'était une dame qui connaissait très, très bien la communauté anglophone du Québec. Alors, René Lévesque, là, pour savoir un peu comment s'y prendre avec ces gens-là, il avait dit à Mme Dumas, viens dans mon équipe, j'ai besoin de toi.
Le sieur de Terrien, mesdames, messieurs, bien plus qu'une chronique historique, mais aussi un méchant bon gars. À 16 heures.
Des fois.
Oui.
Juste une correction. On a parlé du curé Antoine Labelle. C'est pas un cégep, c'est une école secondaire à Laval.
C'est
important de le préciser.
Oui, ça, c'est Jonathan Trudeau qui serait pas content.
Il est-tu allé à
son Laval?
Oui, c'est vrai.
C'est sûr qu'il est allé là, lui.
Ah oui, c'est un gars de Laval, ça, Joe Trudeau. Je sais pas s'il chauffait un Civic monté, par exemple, il était adolescent.
Ça, c'est pour rien. Ça explique des choses.
François, si on a des suggestions, on les envoie, évidemment.
Oui, gênez-vous pas.
Soit on les envoie directement ou envoyez-moi les par courriel, je vais les faire parvenir à François. Merci beaucoup, puis on se reparle la semaine prochaine.
Oui, semaine prochaine.
OK, salut.
Que Québec se lève.
Que Québec se lève.
De retour dans le